Au cours des deux dernières semaines, le Canadien de Montréal a fait de grands changements dans son personnel d'entraîneur pour retrouver la victoire. Michael Kingsbury en ski acrobatique et Charles Hamelin en patinage de vitesse courte piste ont remporté une médaille d'or à leur championnat du monde respectif. Wilfrid Nancy a été nommé le nouvel entraîneur du CF Montréal. Marie-Ève Dicker a perdu sa ceinture de championne du monde de l'IBF en boxe. Et pendant que le Brier, le championnat canadien masculin de curling, se déroule présentement à Calgary, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Stéphane Auger, Yvan Deslauriers, Sandrine Hamel, Michael Lalancette, Marino Martineau et Martin Richard. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination, Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 9 mars, on parlera de Georges Vézina, de hockey scolaire, de la couverture des Paralympiques à l'heure de grande écoute, du programme La force du sport, des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin et de la pratique du boccia à un jeune âge. Georges Vézina a porté l'uniforme du Canadien de Montréal au début du 20e siècle. Originaire de Chicoutimi, il a été la première vedette francophone de l'équipe. Il a remporté la Coupe Stanley à deux reprises et son nom a été donné au trophée remis au meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey en 1925. Michael Lalancette a rédigé « L'habitant silencieux », une biographie de cette légende. Bonjour, M. Lalancette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur Georges Vézina?
Je trouvais que c'était un héros, une vedette de notre sport national dont on ignore encore aujourd'hui les exploits. Puis c'est un petit peu triste parce que il est décédé en 1926, vous l'avez mentionné. Sauf qu'il a marqué son époque, il a marqué son temps, il a marqué son sport et il a accompagné le Québec. L'histoire du Québec, donc des années 10, des années 20, des décennies dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Alors, je suis un natif du Saguenay, il y avait cette curiosité-là d'abord, mais aussi, je suis un passionné d'histoire, un passionné de hockey. Alors, j'ai beaucoup lu là-dessus et tout ça, puis à un certain moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contradictions sur lui, des mythes qui avaient perduré à travers l'histoire, puis je me suis dit, quel beau défi d'essayer de faire la lumière sur sa vie et sa carrière professionnelle. Donc, je me suis lancé dans l'écriture avec la pandémie. Puis, quelques mois plus tard, nous voilà avec un livre dont je suis très fier.
Moi aussi, d'ailleurs, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'étais allé plusieurs fois au centre Georges Vézina voir les Saguenayens de Chicoutimi quand j'étais jeune. Il y avait un grand portrait, d'ailleurs, du gardien de but à l'entrée. Puis moi aussi, j'étais un grand amateur de hockey. Puis, on a très peu, même ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont très peu entendu parler de lui. Donc, la recherche a été probablement extrêmement intéressante, puis je dis le mot « intéressante » entre guillemets, parce que ça a dû pas être facile.
Non, ça a été costaud, je l'admets, mais c'était un beau défi, parce que tu dois soulever toutes les pierres, parce que dans certains articles de journaux, par exemple, il y a des contradictions qui sont soulevées. Puis,
par exemple?
Par exemple, le nombre d'enfants, la taille du gardien de but. Sur les différents sites Internet maintenant, on le voit répertorié à 5 pieds 6 pouces, alors que c'est un gardien de 6 pieds. J'en fais la démonstration dans le livre. Le nombre d'enfants, on lui accorde jusqu'à 24 enfants. Je pense pas que ce soit autant que ça. Ils ont perdu plusieurs enfants. J'en parle également dans le bouquin. Alors, c'est de faire la lumière, essayer de démêler le vrai du faux dans ce qui a été écrit sur lui. Alors, c'était de répertorier tous les articles de journaux qui ont été écrits sur le Canadien de Montréal entre 1910 et 1926, la période durant laquelle il a joué 16 saisons pour le Canadien. Alors, tous les journaux francophones, tous les journaux anglophones, démêler le vrai du faux là-dedans, de fouiller dans les actes de notaire, les contrats de mariage, son testament. Alors, c'était un travail de moine, puis je le dis de façon très humble, mais c'était costaud comme travail, sauf que ça a été bien le fun et challengeant aussi intellectuellement.
Challenger, parce que c'est pas du genre à faire taper Google George, dans sur Google Georges Vézina, puis tous les articles de journaux vont sortir. Là. C'est beaucoup plus complexe que ça, puis beaucoup plus difficile à lire, je présume.
Oui, exactement. Alors, à fouiller dans les microfilms, là, dans les bibliothèques, fouiller dans les annuaires du petit séminaire des années 1900. Alors, tu sais, tout est à faire, dans le sens que tu pars avec quelques grandes lignes. Tu sais, bon, les années où est-ce qu'il a joué, il a vécu, et tout ça. Puis moi, c'est important pour moi, oui, de raconter sa carrière de hockeyeur, puis parce que c'est pour ça qu'on parle toujours de Georges Vézina près de 100 ans après sa mort. Mais moi, ce que je voulais faire aussi, c'est accompagner Georges Vézina dans les grandes étapes de l'histoire du Québec, de parler de conscription, de parler d'électrification des villes, de parler du train. Alors, l'arrivée du train et le développement, les transports par train. La censure au cinéma, etc. Là, tous des thèmes qui, parfois, ont effleuré la vie de Georges Vézina. Ça n'a pas été... Il a pas tout vécu à son époque, mais il a quand même vécu des étapes importantes de l'histoire du Québec, du Canada. Puis pour moi, c'était important, c'était primordial. Puis c'était ça, ma trame narrative de mon livre. C'était, oui, on revit la carrière d'un joueur de hockey. Alors, on se transporte dans des matchs, on va dans des amphithéâtres et tout ça. Mais je voulais que le bouquin accompagne, que les gens qui lisent le livre accompagnent Georges Vézina dans les années 10, dans les années 20, et redécouvrent c'était quoi l'importance du tabac à l'époque, etc., etc. Nombre de thèmes qui, tout au long du livre, nous en font apprendre un peu plus sur la vie de l'époque, autre que sa carrière et sa vie de joueur de hockey.
D'ailleurs, un aspect qui m'a marqué dans les parties que j'ai lues, il a voyagé énormément en train. S'il y avait une carte Air Miles du train, je pense qu'il aurait gagné pas mal de points tout au long de sa carrière.
Ouais, non, c'est sûr que... Puis si on a... C'est malheureux, mais on n'en a pas beaucoup entendu parler à travers l'histoire. Lorsqu'on lit sur l'histoire du Canadien, puis moi, tous les livres ou presque sur l'histoire du Canadien, je les ai lus. Puis il y a plein de facettes dont on n'a pas entendu parler, notamment les voyages. Puis moi, c'est important pour moi de parler de presque tous les voyages. En tout cas, les voyages les plus importants, les plus... tu sais, quand tu pars un mois là en train, c'est quelque chose là, puis c'est éreintant. Il était loin de sa famille, il était loin de ses proches. Puis il fallait être passionné parce que oui, les salaires étaient importants pour cette époque-là, mais ça demeure en importance relative, pas ce que c'est aujourd'hui. Alors, tu sais, Georges Vézina, il s'en va jouer du hockey à Cleveland, à Boston, à New York. Partout au Canada, à Vancouver, à Victoria, il s'en va jouer aux États-Unis, à Seattle, à Portland. Il s'en va même jouer le premier match de l'histoire de la Californie en termes de hockey professionnel à San Francisco. Alors, tu sais, ce sont des rendez-vous dont on n'a pas entendu parler dans nos lectures, dans nos recherches et tout ça. Puis pour moi, c'était important de faire une place importante à ça. Et même des gens qui travaillent chez le Canadien, qui sont assez férus d'histoire, m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Alors moi, c'est comme une espèce de belle récompense que j'ai depuis quelques jours en recevant des commentaires de lecteurs, de me faire dire qu'on découvre beaucoup, beaucoup de choses sur le Canadien. Ça se passe comment les camps d'entraînement, l'entraînement des joueurs et tout ça. Alors, c'est une belle récompense de ce livre-là.
Et pour ceux, bon, vous êtes maintenant la seule personne probablement qui connaît le plus Georges Vézina à qui on peut parler de vive voix. Il se classerait où parmi les bons gardiens de but de l'histoire du Canadien?
Ben moi, je pense qu'il se classe en peloton de tête, peut-être pas numéro un, mais parmi les meilleurs gardiens de l'histoire. Parce que moi, je pense que ça demande difficile de comparer d'un point de vue statistique, les performances des gardiens de but. Dans le sens que, bon, tu sais, on regarde le nombre de Coupes Stanley de Ken Dryden, par exemple, de Jacques Plante, ces gars-là sont presque indétrônables, tu sais, dans le sens qu'ils ont gagné énormément d'honneurs, ça a été la gloire du Canadien.
Mais les joueurs d'avant n'étaient pas les mêmes non plus, là.
Non, ben c'est ça, tu sais, alors moi, je pense, la contribution de Georges Vézina, statistiquement parlant, elle peut pas tenir le coup face à Dryden, à Plante, et compagnie. Mais il a quand même remporté deux Coupes Stanley. Et le Canadien de Montréal, quand on analyse un peu les formations de l'époque, les autres équipes de la Ligue nationale, on se rend compte que le Canadien n'avait pas une si grande équipe que ça. Il y avait quelques joueurs vedettes. Dans les débuts de Vézina, il y avait quelques joueurs, mais ça, c'était des joueurs qui étaient quand même vieillissants, qui étaient en fin de carrière. Lorsqu'il gagne la Coupe en 1916, l'équipe a changé presque du tout au tout. Et lorsqu'il se retire en 1925, ben là, c'est des jeunes loups là, qui émergent. Alors, Harry Morin, Aurel Joliat et compagnie. Alors, il accompagne deux espèces de générations durant sa même carrière de 16 saisons. Puis, justement, le fait qu'il ait gardé les buts toute sa vie avec le Canadien, 16 saisons, il ne rate pas un seul match. Tu sais, ça, c'est digne de mention, puisque les gens vont nous dire, bon, ben oui, le Canadien ne disputait que 12, que 16 matchs, que 20 matchs à l'époque. C'est vrai. Mais c'était aussi en lien avec la réalité de la vie à cette époque-là. L'entraînement, les conditions de vie n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, ça demeure difficile d'un point de vue statistique de faire des comparaisons, mais pour le rôle qu'il a joué, pour la place importante qu'il a prise chez les joueurs canadiens français de l'époque, les vrais de vrais du natif des régions du Québec et du Québec francophone, disons ça comme ça, ben il a été un pionnier. Alors moi, en ce sens-là, c'est un des plus grands. Puis, il a été bon du début à la fin de sa carrière et tout ça dans l'unanimité complète. Il était apprécié tant à Montréal que partout ailleurs sur la route dans la Ligue nationale. Alors, pour toutes ces raisons-là, ça fait en sorte qu'il est l'un des 3-4 meilleurs gardiens de l'histoire du Canadien, j'en suis persuadé.
Merci beaucoup, M. Lalancette. Et en terminant, Canalem s'adresse à des personnes surtout qui ont une déficience visuelle ou d'autres handicaps. Est-ce que votre livre va être disponible en format audio?
On est en train de travailler sur le format audio. Alors, on est super heureux de vous. Je peux vous confirmer qu'il y aura une version audio dans les prochains jours, prochaines semaines. On est en train de travailler là-dessus. Puis, on est même très avancé. Alors, ça s'en vient.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci beaucoup.
On peut gagner!
Le réseau du sport étudiant du Québec est la fédération qui régit les sports dans les écoles, tant au niveau secondaire, collégial ou universitaire. Au cours des dernières années, le hockey a pris beaucoup d'ampleur dans les écoles au Québec. J'en parle avec Stéphane Auger, qui est responsable du développement et des opérations hockey pour le réseau du sport étudiant du Québec. Bonjour, M. Auger.
Bonjour.
Donc, quand j'étais jeune, il y avait une équipe universitaire à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, un circuit collégial 2A, un circuit collégial 3A, et il y avait un peu de hockey dans certaines écoles secondaires. Après un temps mort, est-ce que maintenant ça a beaucoup changé le portrait de la situation?
Oui, bien c'est certain que à tout niveau, le hockey scolaire a explosé dans les 10 dernières années, là. C'est certain qu'à ce niveau-là, ça c'est beaucoup. Le hockey associatif s'est déplacé en partie vers le hockey scolaire. Au niveau collégial, écoute, il y a déjà une ligue collégiale 3 à une certaine époque. Moi, j'ai arbitré à l'époque du collégial majeur qui appelait à l'époque, qui est mort, mais qui renaît quelques années plus tard. Et puis le hockey universitaire, qui a déjà été des années 80, là, un peu plus volumineux, est à trois équipes présentement, qui jouent présentement en Ontario avec l'OUA.
Donc, quel est votre mandat avec le réseau du sport étudiant du Québec?
Bien, c'est de développer le réseau hockey. C'est un développement vertical. C'est en s'occupant des trois secteurs de hockey. C'est de s'assurer qu'il y a un développement qui se fait à partir du scolaire jusqu'à l'universitaire, puis s'assurer qu'il y a assez de hockey pour tous. Présentement, on travaille à harmoniser les différentes ligues scolaires. Il y avait trois ligues différentes. Puis là, on essaie d'harmoniser le tout. On a déjà annoncé que la LHQ se joignait au RSEQ l'année prochaine.
C'est quoi le LH? Le premier acronyme que vous avez mentionné, c'est quoi?
Ligue d'hockey interscolaire du Québec.
OK.
Ensuite, on travaille présentement avec la LHPS. On est en négociation présentement. Ensuite, on a des ligues collégiales masculines et féminines, de division 1 et 2 en féminin. Division 1 et 2 en masculin. Le masculin, il peut partir cette année. Bon, la pandémie a fait qu'on est en pause, mais on a 10 équipes qui partent l'année prochaine. C'est intéressant. Puis là, ben on travaille tranquillement sur essayer de développer le hockey universitaire là, avec toutes sortes d'offres de services.
Donc, la RSEQ a beaucoup développé le football dans les années 90, début des années 2000. Quel est votre... Sur quoi vous allez vous concentrer là, pour développer le hockey universitaire?
Ben, c'est principalement, tu sais, il ne faut pas oublier qu'au RSEQ, ce sont les membres qui participent, évidemment. Fait que ça prend de l'intérêt de la part des différentes écoles, des cégeps et des universités. Tu sais, moi, ben, je regarde ce qui se passe, on regarde les bassins de joueurs, on regarde les différentes tendances. Pour avoir fait du hockey depuis bien des années, je veux m'assurer que je parle aux différents intervenants, puis on essaie de brasser des nouvelles idées pour essayer de développer le hockey. On s'entend que, tu sais, chaque niveau de hockey, il faut qu'il y ait un débouché. Puis présentement, ben, on s'entend qu'au hockey scolaire, il y a un débouché vers les ligues juniors, junior majeur, junior 3, au niveau du scolaire, collégial division 1, division 2. Mais fou, on arrive après les années juniors, après les joueurs de 17-20 ans, là, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a plus vraiment de hockey, à part si tu arrives à un niveau très élevé, ben, il y a un niveau professionnel. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Là.
Donc, c'est cette avenue-là que le hockey universitaire viendrait combler s'il y a une plus grande offre, parce que présentement, il y a juste 3 ou peut-être 5 universités, si j'inclus Ottawa et Moncton et peut-être Carleton, là, si je me souviens, que les joueurs du Québec peuvent avoir accès.
Bien, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'étudiants athlètes. Au féminin, on a une équipe universitaire, on a plusieurs équipes féminines universitaires. Au niveau masculin, on n'a pas beaucoup. Donc on veut s'assurer des étudiants athlètes qui veulent poursuivre leur cheminement comme joueurs de hockey. T'sais, le hockey, c'est un sport à développement tardif. Fait que, t'sais, en l'âge de 24-25 ans, de 20 à 25 ans, on peut encore se développer. Ça permettrait à des joueurs de continuer leur carrière en tant que joueur au lieu d'aller finir dans les ligues professionnelles où il ne se passe pas grand-chose, puis de poursuivre leurs études, hein, parce que le réseau du sport étudiant, c'est la réussite scolaire par le sport. Fait qu'on veut développer l'offre universitaire, entre autres.
Et quelle est la relation avec la Fédération de hockey, donc Hockey Québec, pour le développement du hockey scolaire? Parce que, par exemple, dans le Midget 3A, donc le séminaire du Saint-François et l'équipe du Midget 3A fait partie de la Ligue au Midget 3A, mais offre aussi du hockey scolaire. Donc, c'est quoi le partenariat avec Hockey Québec?
Ça va très bien. On travaille de pair, évidemment. Le Hockey Québec, c'est l'organisme qui régit la sécurité puis les règlements. Alors, on travaille avec Hockey Québec sur différents aspects, dont le développement. Donc, la relation est très bonne.
OK. Donc, merci beaucoup, M. Auger. Et puis, on s'en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup.
Plaisir.
Prime time, baby! Les amateurs de sport paralympique vont être contents. Les Jeux paralympiques de Tokyo qui vont avoir lieu, on l'espère, au mois de septembre, vont être diffusés à l'heure de grande écoute. J'en parle avec Yvan Deslauriers, mon chroniqueur favori. Bonjour, Yvan.
Bonjour, Dominique. C'est comme ça, je suis ton chroniqueur favori.
Ben oui, tu reviens toutes les semaines.
Mon Dieu, hey, je viens de monter en grade.
C'est cela. Ben, c'est moi, un amateur de sport paralympique qui a participé à quelques Jeux paralympiques où on avait 3 heures, 2 semaines après les Jeux, à 8 heures le soir, à 11 heures le soir. Il y a une grosse amélioration.
Une énorme amélioration. Il va y avoir des Jeux en temps réel, en prime time, c'est-à-dire dans les heures de grande écoute. Et je pense que c'est le début de quelque chose, vraiment. Je voulais commencer ma petite chronique en vous faisant un petit historique de la transmission des Jeux. Les Jeux ont commencé à la télévision en 1936. Et là, je vous ramène là-dedans. Moi, j'étais pas né, puis probablement pas toi non plus. Hein?
Non, vraiment pas.
Non, hein? Alors.
Puis quand tu parles des Jeux, tu parles des Jeux olympiques?
Oui, les Jeux olympiques, okay. Oui. Okay. Oui, on commence là pour arriver aux Jeux paralympiques plus tard.
Okay.
Mais en 1936, c'était les Jeux de Berlin. Et la personne qui était à la tête du gouvernement en Allemagne en 1936, c'était Adolf Hitler. Et le but de retransmettre les Jeux, c'était de permettre à certaines personnes, c'était pas dans tous les foyers, il y a 162 000 personnes qui ont été capables de suivre les compétitions hors du stade, dans un périmètre proche. C'est comme si, à l'époque, ils avaient fait un Wi-Fi, évidemment, ça n'existait pas, là, mais un Wi-Fi proche du stade. Et je pense que c'était un peu pour la gloire d'Adolf Hitler. Et je pense que Jesse Owens, qui était un noir américain, un athlète extraordinaire, qui a gagné plusieurs médailles d'or, a fait rager probablement M. Hitler à cette époque-là.
D'ailleurs, il y a un grand film qui a été, un documentaire qui a été produit à la suite de ces Jeux de 1936 avec une cinéaste. Malheureusement, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est un film d'époque extraordinaire.
À ne pas manquer, tout à fait. Ensuite, c'est aux Jeux de Londres en 1948, où là, on a vraiment une télédiffusion dans les salons pour à peu près 500 000 personnes dans un rayon d'à peu près 200 kilomètres. Alors, tu vois qu'on s'agrandit vraiment tranquillement. J'ai pas pu m'empêcher de faire un petit croche par Rome en 1960. Pourquoi Rome 1960? Ce sont les premiers Jeux olympiques où Richard Garneau, notre commentateur québécois, ce sont ses premiers Jeux olympiques. Richard Garneau, qui est décédé depuis en 2012, a couvert 22 Jeux olympiques sur 25 pendant cette période-là, de 1960 à 2012. C'est l'Olympien des commentateurs sportifs.
Toute une légende, d'ailleurs.
Toute une légende. Et quelle langue française il a utilisée. Il a commenté le hockey, le patinage artistique, mon Dieu, comment oublier ces descriptions des athlètes olympiques qui faisaient de la course, du lancer, de toutes sortes de compétitions athlétiques. C'était d'une beauté extraordinaire. Maintenant, ça nous amène au 24 août qui s'en vient. Est-ce que tu commences à être déjà énervé pour le 24 août?
J'espère d'être dans l'avion pour m'y rendre le 24 août, pour que j'espère y être.
Ah, je te le souhaite énormément. Il va y avoir Scott Ross sur CBC. J'ai pas vu encore le plan de couverture, s'il y a un plan de couverture francophone. Mais sur CBC, il va y avoir le chef d'antenne de tous les chefs d'antenne, Scott Russell, qui va être accompagné de Chantal Petitclerc, qui, elle, a gagné 16 médailles d'or paralympiques, qui vont présenter les cérémonies d'ouverture de 6h à 10h du matin, heure locale du Canada, le 24 août. Les cérémonies vont être présentées dans leur entièreté, avec sous-titres, audio-description et langage des signes pour tous ceux qui en ont besoin. Une fois les compétitions commencées, CBC va commencer à présenter une heure de spectacle, c'est parce que je traduis, one hour show, une émission d'une heure de 7h à 8h PM, heure locale, et 5h de couverture tous les jours, avec ensuite la couverture de 12 événements à toutes sortes de moments donnés pendant la journée, pendant la période des Jeux. Pendant ce temps-là, du côté américain, sur NBC, et en particulier NBCSN, c'est-à-dire NBC Sports Network, il va y avoir 12 heures de couverture prime time à tous les jours. Parce qu'il y a plusieurs athlètes américains, évidemment, qui sont en vedette lors de ces Jeux-là.
C'est pas le même nombre d'heures de diffusion que les Jeux olympiques, mais... s'améliore énormément, là.
Oui, c'est un progrès énorme déjà. Et ça n'enlève pas les autres formes de diffusion sur Internet, entre autres. CBC fait partie d'un consortium canadien dont on comprend Ami TV, Rogers Sportsnet, Facebook et Twitter. Donc, ça va être la couverture la plus grande des Jeux paralympiques qui n'aura jamais eu lieu jusqu'à présent. Et à mon avis, ce n'est qu'un début. Parce qu'une fois que ça va être fait, il va y avoir une sorte de demande qui va être faite de la part du public pour en avoir davantage. En particulier s'il y a des vedettes canadiennes qui se mettent en évidence.
Et donc, comme tu l'as mentionné, du côté francophone, les heures sont pas... encore été mentionné, mais là aussi, ça risque d'augmenter, voire plus d'heures à la télévision du côté de la Radio-Canada.
Oui, tout à fait. Puis il faut penser que, étant donné les conditions sanitaires actuelles, une fois que tu envoies une équipe, par exemple, au Japon, dans le cas de Tokyo, tu les ramènes pas tout de suite, tu essaies de l'utiliser le plus possible sur place. Donc, la couverture paralympique pourrait y gagner. et pourra en bénéficier non seulement pour les Jeux paralympiques de cet été, mais aussi les Jeux paralympiques à Beijing, en 2022, les Jeux d'hiver. Donc, on commence une spirale positive qui va nous amener probablement à une meilleure couverture des Jeux, mais aussi à une meilleure connaissance du sport paralympique.
Et il y a souvent beaucoup de la famille des athlètes qui se rendent sur place pour assister à la performance de leurs enfants, de leurs amis, mais c'est pas évident qu'il va y avoir des spectateurs à Tokyo.
Là, ça va être vraiment plus compliqué cette fois-ci. On parle de... Il y a de 15 400 athlètes olympiques et paralympiques qui vont être confinés dans une bulle à Tokyo. On a vu l'été dernier les éliminatoires de la Coupe Stanley où il y avait, il y avait 16 équipes, 20 équipes, mettons, avec oui. 20 joueurs, ça fait 400 joueurs plus les entraîneurs, mais en tout et partout, les arbitres, mettons 500, 600 personnes. On est très loin de 15 400 athlètes olympiques qui vont vivre dans une bulle. La règle, ça va être que vous devez rester dans la bulle et dès que votre compétition est terminée, vous en allez chez vous avec les règles qu'il y a à la maison, les quarantaines et toutes ces choses-là. Ce que j'ai trouvé particulier, c'est que il y a des milliers d'officiels, des invités de marque, des commanditaires, des journalistes, des membres des équipes de télédiffusion qui, eux, n'auront pas à être dans une bulle. Et là, je me pose un peu des questions sur le risque que ça pourrait apporter. Mais dans tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, on veut avoir des spectateurs, mais j'ai pas vu de plan qui fait que des spectateurs vont être là, d'une part, et des spectateurs d'en dehors du Japon, d'autre part, parce qu'il faut penser aussi que la communauté japonaise est peut-être pas si intéressée que ça à avoir des gens qui vont venir de l'extérieur et peut-être apporter le virus.
Surtout que, présentement, il y a les Jeux olympiques et paralympiques, par la même occasion, ont un peu la presse négative. Il faut changer cette idée-là du côté de Tokyo pour que les Jeux soient un succès.
Oui, ce temps-là, il y a beaucoup de vaccins qui vont passer et peut-être que l'image va changer. On va avoir besoin de divertissement et ça, les Jeux olympiques, ils peuvent nous en apporter.
Oui, c'est tellement le fun, les expériences olympiques et paralympiques. Merci beaucoup, Yvan. On se reparle dans deux semaines et on s'en va à la pause. Et au retour, on va parler avec Martin Richard du Comité paralympique canadien. À tout à l'heure!
Ladies and gentlemen, welcome to the Halftime Show.
Alors, on vient d'entendre la chanson Final Countdown du groupe Europe, enregistrée en spectacle il y a de ça quelques années. Et on est d'ailleurs à presque moins d'un an des Jeux paralympiques de Pékin.
Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little us does.
Voici des mots puissants de Nelson Mandela qui ont été prononcés en l'an 2000. Le sport a la possibilité de changer le monde. Dans la même veine, le Comité paralympique canadien, en partenariat avec d'autres organisations, ont lancé une nouvelle initiative visant à partager l'impact positif du sport sur les communautés canadiennes. J'en parle avec le directeur exécutif, communication et marque du Comité paralympique canadien, Martin Richard. Bonjour, Martin.
Bonjour, Dominique. Ça va bien?
Oui, et toi?
Toujours, toujours. Merci.
Et donc, est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes de cette initiative-là?
Ben écoute, je pense que tu l'as déjà dit avec les commentaires de Nelson Mandela. C'est vraiment... D'ailleurs, je pourrais pas dire quelque chose de mieux que lui, donc je vais simplement continuer de ce que tu as présenté. C'est vraiment l'initiative a pour but de remettre ou repositionner la valeur du sport auprès des Canadiens. Puis quand on parle de Canadiens, on parle de tout le monde, inclusif de tout âge, tous intérêts, etc. On parle pas juste du sport de compétition, on parle du sport de l'activité physique. Et puis, je pense que c'est clair que tout le monde va être d'accord avec l'énoncé que dans la dernière année, ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de gens qui vivent des différentes difficultés, soit avec l'isolation, financièrement et tout ça. Et on a tendance à évidemment, avec le manque d'opportunités de faire de l'activité physique en termes de communauté et tout ça, on a tendance à oublier l'importance que ça apporte à nos vies. Donc, essentiellement, cette initiative-là a vraiment... C'est un exercice collectif. Donc, les membres de la communauté sportive. Quand je dis membres, là, c'est pas juste les fédérations sportives, c'est les clubs, c'est les organisations communautaires, etc. C'est les individus. Puis ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment de promouvoir les bienfaits que le sport ont dans leur vie quotidienne.
Est-ce que tu pourrais me donner des exemples qui ont été présentés à toi dans le cadre de ce programme-là qui vont être lancés prochainement ou des choses que tu pourrais nous dire dans cette direction?
Absolument. Écoute, on voit souvent nos athlètes d'autres performances à la télévision, dans tous les différents médias. Mais c'est pas tout le monde qui vont gagner une médaille aux Jeux paralympiques ou olympiques ou championnats du monde. Donc, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rappeler aux gens avec des exemples très concrets. Puis, je vais partager une de mes exemples, en fait, parce que c'est personnel. Moi, je suis un père, j'ai trois enfants, deux filles et un petit garçon. Et puis, cet hiver, nous, on a vraiment fait... On s'est dit, on peut pas aller à l'aréna, on peut pas rien faire en sport organisé parce qu'il y a rien qui se passe ici. Donc, on va faire une patinoire en arrière de notre résidence. Et puis, je commençais à mettre des vidéos de mes enfants qui patinaient, leur progression, tu sais, toutes sortes de choses. On s'amusait, simplement. Et puis, ça a commencé à inspirer les gens de mon entourage. Mes voisins, etc. Et ce qu'on a fait, c'est que ma patinoire pour mes trois enfants et mon épouse est devenue la patinoire de la communauté, donc de mon petit coin de pays là, qui est en campagne. Et puis, donc ça, c'est un exemple comment un morceau de contenu, juste une petite vidéo sur les médias sociaux, ont inspiré des gens à être actifs. Et l'objectif, c'est vraiment de ça, de revenir à nos racines, disons.
Du genre un peu comme quand on était jeune, toi puis moi, on était exactement. Probablement dans le même âge où on s'organisait dans la rue, puis on sortait deux buts, puis on jouait au hockey pour le fun.
Et voilà, c'est exactement ça. Donc, on veut rappeler les gens que faire de la raquette dans la forêt en arrière ou bien jouer au hockey en plein milieu de la rue, comme tu dis, c'est exactement ce qu'on veut promouvoir. C'est pas une question de promouvoir le sport de compétition. Évidemment, ça fait une partie de comment on va créer une étincelle envers nos jeunes, envers les Canadiens, tout ça, d'être fiers de ce que nos athlètes font. Mais ça va au-delà de ça. C'est parce que... au-delà de la performance. C'est vraiment une initiative pour se rappeler des bons souvenirs qu'on avait dans notre enfance et les partager avec des gens, que ce soit des nouveaux Canadiens, des jeunes, quoi que ce soit. C'est vraiment ça l'initiative.
Puis parce que le sport, de toute façon, de haut niveau, avec la base, c'est comme une pyramide. On commence avec plein de monde qui joue, handicapé ou pas, et on trouve avec des athlètes qui deviennent, s'ils sont chanceux, ils ont des bons environnements, des bonnes habiletés sportives, ils vont avoir peut-être des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques. C'est un peu pour ça que vous avez créé un partenariat avec le Comité olympique canadien, avec à nous le podium, puis la CBC en anglais. C'est pour pouvoir faire la promotion de ça.
Bien, en fait, c'est un partenariat dans le sens qu'on s'est décidé qu'on était pour travailler ensemble, mais ça n'arrêtait pas avec nous. Nous, on est vraiment les gens, on est les rassembleurs. Donc, on a communiqué avec toutes nos fédérations sportives et on leur a dit, écoute, on veut que vous embarquiez dans tout ça. Parce qu'en bout de ligne, on le fait déjà, ça. On promouvoit le sport. On a tous intérêt à promouvoir l'activité, la santé à travers le pays. Sauf qu'on le faisait, il n'y avait rien de coordonné. Donc, on le faisait individuellement, mais en termes de collectif, on ne le faisait pas. Et là, c'est là où on s'est dit, écoute, on est beaucoup plus fort si on travaille ensemble. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne partage pas nos idées? et on n'amplifie pas nos idées. Donc, par exemple, un sport comme la natation peut bénéficier du support d'une autre fédération ou d'un autre type de sport pour promouvoir ce qui se passe dans les piscines, par exemple. Donc, il y a beaucoup de collaboration, puis on veut tout atteindre le même objectif. Que les Canadiens qu'on améliore la santé auprès de nos Canadiens, qu'on améliore l'activité physique auprès de notre jeunesse qui, malheureusement, en ce moment, sont plus aptes à jouer à des jeux vidéo que jouer à des jeux sportifs dehors.
Et pour les gens vont pouvoir voir ou avoir des comptes rendus à quel endroit de ces activités-là?
Écoute, ça, on promouvoit ça dans les médias. Donc, tu as mentionné le partenariat avec Radio-Canada et CBC. Donc, eux vont en parler de ce type d'activité-là. Je vois des reportages dans les communautés, dans les maritimes, de gens qui vont faire des choses exceptionnelles dehors, des pistes de bobsleigh dans leur cour arrière, des choses comme ça. Je trouve ça extraordinaire. Et plus on en parle, plus que ça va sensibiliser les gens à jouer, à aller dehors et simplement jouer, s'amuser. Moi, je le vois avec mes enfants. Écoute, une fois qu'ils rentrent dans la maison après avoir joué 2-3 heures à l'extérieur, sont tellement calmes, sont focusés, ils peuvent faire leurs devoirs, la lecture et tout ça. Quand ils n'ont pas cette opportunité-là, écoute, comme n'importe quel parent vont dire, « Ah, mes enfants, c'est des petits monstres. » C'est normal. Ils ont besoin de bouger. Ils ont besoin d'être actifs.
Mais Martin, je suis obligé de t'arrêter là. C'est un très beau projet. On essaie tout le temps qu'on a. On pourra en parler une autre fois, mais bonne initiative, puis à la prochaine.
Merci, Dominique. Toujours un plaisir.
Bye-bye. So you chipped your nail, you stubbed your toe, you lost your phone. Life's a rolling stone on a broken roller coaster. Okay. It's all good, move on. Throw your hands up, move on. It's all good, today is your day. Time is filled with swift transition. Put yourself... Alors, la vie est une montagne russe, mais depuis jeudi dernier, ça va un petit peu mieux. On est à 360 jours des Jeux paralympiques de Pékin, les Jeux d'hiver, aujourd'hui. Et j'ai en ma compagnie pour en parler Sandrine Hamel, qui fait partie de l'équipe nationale de parasurf des neiges. 360 jours, Sandrine, ça passe vite, ça arrive vite.
Oui, ça passe vite. Moi, j'ai encore l'impression que j'étais à Pyeongchang la semaine passée. Donc, c'est assez hallucinant les trois dernières années, à la vitesse que ça a passé, surtout la dernière saison. Qui est un petit peu différente, là, ça passe vite, oui.
D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est il y a 3 ans. Tu venais de revenir des Jeux paralympiques en Corée du Sud.
Oui.
Tu avais eu un petit problème, d'ailleurs, à la porte de départ, qui avait été très drôle, rafistolé avec des élastiques, si je me souviens bien.
Oui.
Donc, il y a eu pas mal de compétitions depuis ce temps-là. Là, tu as dit que ça allait bien, mais comment ça s'est déroulé les dernières années là, au niveau international?
Ça s'est super bien passé. Là, si on parle vraiment au niveau résultat, je ne pouvais pas être plus satisfaite. Grande progression depuis les Jeux de Pyeongchang. C'est sûr que là, on a ajouté beaucoup d'expérience. Quand j'étais à Pyeongchang, j'ai encore là, toute nouvelle sur le circuit. C'était nouveau pour moi. Fait que c'est surtout à ce niveau-là, là, au niveau du bagage en termes de course, qu'on est venu gagner beaucoup d'expérience.
Juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le parasurf des neiges, c'est quoi tes épreuves et ta classification?
Oui, dans le fond, donc moi je participe à 2 épreuves. On a le snowboard cross. Le snowboard cross, dans le fond, ça ressemble un peu à ce qu'on trouve aussi en motocross. Donc on est 4. À partir en même temps sur un parcours. Donc, il y a des sauts, il y a des virages, puis c'est le premier qui arrive en bas, la première qui arrive en bas qui remporte la course. Puis, la deuxième épreuve, ça s'appelle le bank slalom. Puis, le bank slalom, à l'inverse, je suis à ce moment toute seule sur le parcours. Puis, c'est plus comme la personne qui a le meilleur temps qui va gagner. Donc, c'est des virages, si on veut, rapprocher avec des drapeaux qu'on doit contourner. Fait que c'est un petit peu différent à ce niveau-là.
Okay. Puis moi, dans ma... Je veux juste, oui. juste mon technicien, Mathieu, était quand il t'a donné l'explication du surf des neiges, il était bien impressionné, un grand sourire fendu jusqu'aux oreilles. Mais en plus, tu as un handicap, donc c'est quoi ta classification?
C'est ça. Donc, pour moi, c'est un handicap qui est neurologique, c'est de naissance. Fait que c'est surtout basé, disons, j'ai une jambe qui est plus forte que l'autre. Donc, moi, je vais compétitionner à ce moment-là, majoritairement, je dirais, avec des amputés. Donc, des personnes qui leur manquent un pied, par exemple. Okay. Parce que c'est la classification, la catégorie où ils considèrent que l'handicap est le moins important, étant donné que j'ai quand même... je manque pas de. J'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras. Fait que à ce niveau-là, c'est pour ça que je suis dans cette catégorie-là.
T'as dit plus tôt que dans les trois dernières années, tu avais permis d'acquérir de l'expérience en vue des Jeux de Pékin. Tu sais maintenant à quoi s'attendre. Les cérémonies d'ouverture, le village, le gros fla-fla de la grosse mm-hmm. compétition. À Pékin, tu vises quoi?
C'est sûr qu'on vise la médaille d'or, évidemment. Pyeongchang, pour moi, c'était surtout une question de gagner de l'expérience à ce niveau-là. J'étais nouvelle, comme j'ai mentionné. Mais là, Pékin, on vise vraiment le podium, la médaille d'or. Comme vous dites, c'est sûr que j'ai participé au dernier jeu, mais encore là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça risque d'être déjà un peu différent. Ça fait qu'on on sait pas trop à quoi s'attendre, mais quand même très hâte, en espérant pouvoir y participer, évidemment.
Est-ce que, bon, il n'y a pas eu de compétition depuis le mois de mars dernier, il n'y a pas eu cette année dans ton cas. Est-ce que ta qualification est assurée?
Non, c'est ça qui est un peu compliqué. Je pense que c'est la réalité pour tout le monde, pas seulement nous en sort des neiges. C'est qu'on n'est pas encore trop au courant du protocole de qualification. Comment on va faire pour se qualifier? Parce que normalement, c'est sûr que, par exemple, nos championnats du monde qui ont été annulés cette année auraient été un événement important pour ça. Donc, on est encore dans l'attente de voir, parce qu'évidemment, on ne sait pas non plus l'année prochaine, ça va ressembler à quoi le calendrier. On a une idée, mais... Avec, comme on dit, avec le virus, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on est encore en attente à ce niveau-là. J'espère du moins. Niveau résultat, pour moi, ça allait déjà bien. Mais comme on dit, faut être patient.
Mais tu as quand même eu la chance de te entraîner sur les pentes. On a oui. eu quand même assez de neige au Québec, puis partout au Canada. Je pense que tu n'es pas resté juste au Québec. L'entraînement, ça va bien?
Oui, ça va super bien. On a eu la chance de s'entraîner majoritairement en Alberta. Puis honnêtement, ça doit être... On a eu les... Je pense que moi, j'ai participé au plus beau camp d'entraînement que j'ai pu avoir dans les trois dernières années. Fait qu'on s'est vraiment concentré là-dessus. Puis le fait qu'on n'a pas de course puis qu'on voyage un peu moins, qu'on voyage pas du tout à l'extérieur du pays, ça nous a aussi permis de progresser puis de travailler sur des choses que normalement, on aurait peut-être eu moins de temps. Donc à ce niveau-là, c'est super positif.
Bon, mais là, le printemps arrive... tu vas peut-être avoir quelques semaines pour te reposer. On va se reparler prochainement pour savoir comment ça se déroule pour en vue des Jeux de Pékin. Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci, à la prochaine.
Alors, j'accueille ma nouvelle chroniqueuse Marinou Martineau qui est sur l'équipe nationale de boccia. Alors, bonjour Marie-Lou, merci de faire partie de l'émission.
Bonjour Dominique, et merci de m'avoir invité.
Donc, est-ce que tu peux, pour ta première chronique, nous parler un peu de toi?
Oui. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou Martineau, j'ai 20 ans et je vis avec la paralysie cérébrale depuis ma naissance. Je vis en fauteuil roulant depuis ma naissance. Et je dois obtenir des soins à l'aide d'une personne. Le boccia est un sport paralympique que je pratique depuis que j'ai 9 ans. et la voiture ressemble à la pétanque. Le but du jeu est de se rapprocher le plus près du cochonnet, qui est une boule blanche, avec des balles rouges et des balles bleues.
Toi, dans quelle catégorie es-tu, Marilou?
Moi, je suis dans la catégorie BC3, qui signifie que je dois jouer à l'aide d'une rampe, accompagné d'un partenaire de performance.
Qui est ton partenaire de performance?
Mon partenaire de performance est ma mère Jodie Duquette.
OK, puis comment ça fonctionne la relation avec une personne qui t'aide à faire le boccia? J'ai oublié le nom, là, je suis désolé, mais comment ça s'occupe?
Dans le fond, la relation, c'est très simple. Le partenaire de performance doit diriger la rampe avec l'aide de nos conditions, de nos commandes qu'on dit comme danser à gauche, danser à droite, passe la rampe en arrière pour que je sois capable de viser correctement vis-à-vis la balle blanche. Et aussi, selon la hauteur, je dois lui demander une hauteur si je veux que ma balle aille au 5 mètres, au 6 mètres, jusqu'au 8 mètres.
Et ça fait longtemps que tu joues au boccia. Comment ça a commencé?
J'ai découvert le boccia à l'école Madeleine d'Argeron, qui est une école adaptée pour les personnes à mobilité réduite.
T'avais quel âge quand t'as commencé à faire du sport?
J'avais l'âge de 9 ans. Puis maintenant, ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe nationale.
Et puis à l'école, t'avais des cours d'activité physique, là. T'as essayé plusieurs sports.
Oui, genre des cours d'activité physique parce que vu qu'on est à mobilité réduite, on ne peut pas l'appeler éducation physique vu qu'on n'était pas évalué. J'ai découvert le boccia en essayant le hockey, le pommeau, le baseball, le tennis. Et le boccia était le sport idéal pour moi pour me permettre de bouger les bras, pour bouger les bras ma façon. Et comme je pouvais pas lancer la balle, c'était plus facile pour moi de la pousser.
OK. Puis donc, tu as participé à tes premières compétitions à un jeune âge.
Oui, j'ai commencé au défi sportif scolaire à l'âge de 12 ans et j'ai remporté une médaille d'argent et une médaille d'or avec l'école.
OK. Puis c'est quelle ta plus belle performance au niveau international?
Ma plus belle performance, c'est lors des Jeux paralympiques à Rio en 2016, j'ai eu la chance de pouvoir jouer une manche avec l'équipe. Même si on n'a pas gagné, c'était une très belle expérience.
Puis quand t'as dit à tes parents que toi, tu voudrais faire du sport de haute performance, comment ils ont réagi?
La réaction de mes parents était très surprenante et très drôle. Ils ont ri de moi et ils ont dit: ben voyons donc, ça ne peut pas, ça doit être un fond des petits vieux, vu que ça ressemblait à la pétanque. Mais j'ai dit non, c'est vraiment un sport pour tous et de tout âge. Et c'est vraiment pour m'aider. Ça m'a aidé pour la précision, les stratégies de jeu comme le tennis, là. Ça m'a aidé pour la précision.
Oui.
Ça savoir plus facile que la balle se rende où que je voulais qu'elle soit.
Puis aussi, je pense que ça t'a permis de grandir en tant qu'individu, juste pas juste comme athlète.
Oui, ça m'a permis de grandir et d'apprendre que même si on est en fauteuil roulant, on peut accomplir des choses comme une personne qui peut marcher, même si c'est différent, mais on réussit quand même à accomplir des choses à notre façon.
Merci beaucoup, Marie-Lou. C'est tout le temps qu'on a. Très bonne première chronique. On se reparle prochainement. Et puis, à la prochaine. Bye-bye.
À la prochaine.
Alors, c'est tout ce qui met un terme à notre émission. Je remercie encore le technicien spécial Mathieu Tessier. Je remercie mes invités Michael Lalancette, Stéphano Auger, Martin Richard et Sandrine Allard, Amel, pardon. Et on se retrouve dans deux semaines. Bye-bye.